Bonsoir. Un conflit frontalier oppose la RDC à l'Ouganda au niveau de Vura-Ofo, un poste frontalier à cheval entre les territoires ougandais d'Aru et les districts ougandais d'Arua. La commission technique mixte RDC-Ouganda a adopté le week-end dernier un plan pour la reconstitution des limites entre les deux pays à ces postes. Ce plan consiste notamment en la reconnaissance et l'établissement des bornes frontières. Comment analyser cette situation et que faut-il pour prévenir les conflits frontaliers entre la RDC et ses voisins? Nous en parlons avec Johnny Wadri, le premier conseiller à la coordination de la société civile d'Aru dans la province de l'Ituri. Bonsoir Johnny Wadri.
Bonsoir.
Baudouin Amouli Kabarouza est le coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Sierge Lansible. Bonsoir Baudouin Amouli Kabarouza.
Bonsoir.
Et professeur Chibangoukala, il est professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Il prépare un ouvrage sur toutes les frontières de la RDC. Bonsoir, professeur Chibangoukala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La 8e session de la commission technique mixte RDC-Ouganda sur la reconstitution de la ligne de démarcation de la frontière commune entre ces deux pays s'est clôturée dimanche dernier à Bunia. Selon les représentants des députés nationaux de l'Ituri à ces assises, les deux parties ont adopté un plan pour la reconstitution des limites entre les deux pays au niveau des Voura. On écoute cet entretien entre Berry Franklin Luchaka et José Deschartes Menga pour connaître l'origine de ces conflits frontaliers.
José Deschartes Menga, bonsoir.
Bonsoir, Berry Franklin Luchaka.
Dites-nous, à quoi ressemblent aujourd'hui les relations frontalières entre la RDC et l'Ouganda?
Écoutez, Berry, les relations entre la RDC et l'Ouganda est un long feuilleton à dents des signes. Depuis l'affaiblissement de l'autorité de l'État en RDC lors des guerres de 96 avec l'AFDEL, de 99 avec le RCD, puis les conflits interethniques de l'Ituri dans la première décennie des années 2000, l'Ouganda a constamment violé l'espace territorial congolais. Cette situation Berry perdure encore jusqu'en ce moment, car des Congolais qui habitent le long de la frontière rapportent des violations constantes du territoire congolais, ce qu'ils assimilent à une provocation de la part de l'Ouganda.
Mais est-ce qu'il y a des cas concrets de ces violations répétées du territoire congolais?
Selon plusieurs reportages réalisés par des journalistes de Radio Capi sur terrain Berry, l'on peut citer quelques cas. Prenons par exemple, début mai 2015, les habitants de la cité d'Aru ont été gagnés par la panique et l'agitation. À la base, deux avions de chasse ont survolé le ciel de cette entité congolaise, située à près de 300 km au nord de Bunia, pendant une dizaine de minutes. Les habitants d'Aru ont été surpris par des bruits assourdissants de ces avions de chasse qui ont fait intrusion dans l'espace congolais. Des sources aéroportuaires d'Aru disaient avoir reconnu les couleurs du drapeau ougandais sur ces appareils. Ils ont survolé Aru à basse altitude, fait qui a même été reconnu par Gilbert Unenchan, administrateur du territoire assistant d'Aru. Il avait déclaré en ce moment que ces avions avaient pris la destination de la ville voisine d'Arua, en Ouganda, après leur mésaventure. Un autre exemple, le 9 juin 2015, des Congolais avaient construit une dizaine de maisons au village d'Ofo à la frontière avec l'Ouganda. Mais les militaires et policiers ougandais lourdement armés ont surgi pour arrêter la poursuite des travaux. Selon la société civile et l'administrateur du territoire d'Aru, les Ougandais ont détruit ces maisons sur les sols congolais et ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la population locale. Ces Ougandais soutenaient que cette zone est neutre et que les Congolais n'avaient pas les droits d'y construire. Pour la société civile d'Aru, cet acte était une violation de l'intangibilité de la frontière congolaise. Quelques jours plus tard, des camions chargés de marchandises en provenance de l'Ouganda pour la RDC ont été bloqués jusqu'à fin juin au poste frontalier ougandais de Voura. Selon Robert Amassi, président de la FEC du territoire d'Aru, les autorités douanières ougandaises ne disaient pas pourquoi ces camions étaient interdits de poursuivre leur voyage vers la douane congolaise à Aru Centre. Voilà quelques cas que l'on peut citer, Berry.
Et face à tous ces cas de violations répétées du territoire congolais, quel est le sentiment ressenti par les Congolais qui vivent au niveau de ces frontières?
On peut dire en ce moment que ces Congolais ressentent purement de la frustration. Et cela, Berry, accentue une méfiance envers les ressortissants ougandais, mais aussi un mépris envers les pouvoirs publics congolais, car des habitants congolais de ces territoires frontaliers estiment que le gouvernement, leur propre gouvernement, ne fait pas grand-chose pour régler ces conflits frontaliers. Peut-être qu'avec la dernière rencontre de Bounia-Berry, les choses vont se régler. Voilà tout ce que l'on peut dire à ce stade.
Merci beaucoup, José Deschartes-Minga.
Merci, Berry. Au revoir.
Au revoir.
Merci à Berry, Franklin Luchaka et José Deschartes-Minga. Johnny Wadri, je rappelle que vous êtes premier conseiller à la coordination de la société civile d'Aru dans la province de Litori. Qu'est-ce qui est à la base de ces conflits frontaliers qui opposent la RDC et l'Ouganda au niveau des Vura Ofo?
Oui, le conflit qui se fait parler la frontière entre Vura et la RDC, après un conflit qui ne dit pas son nom. Là, un conflit n'existe même pas. Et pas plus que tout est clair et net sur terrain. Lorsqu'on est sur terrain, vous avez là des limites naturelles, claires, et puis des limites artificielles qui est érigées. Alors, ce qui a rempli la vase, c'est le fait que suite à l'exploitation industrielle de mines d'or par kilomètre dans le mining, et il y a une certaine, un certain afflux d'activités qui se réalisent, qui sont nées à partir des postes douaniers, et dont le commerce, et des activités justement de routine qui attirent la jeunesse pour s'impliquer et se réaliser. Mais hélas, hélas, tout de suite là, les Congolais se sont vus inquiétés par les Ougandais qui leur foule même sur le sol congolais et qui a été, n'est-ce pas, délaissé depuis l'époque coloniale. Et comme pour en termes clairs, la RDC, depuis son indépendance au poste de Aru, le poste de Vura a été laissé à 6 km et la barrière est restée à l'intérieur. Mais dès lors que le conflit se sont fait attendre dans d'autres coins, comme à Madi et partout, et il y a eu, n'est-ce pas, de l'accord de Bourdoto qui a été signé entre les deux autorités du pays, donc de l'Ouganda et de la RDC. C'est alors qu'au niveau des postes douaniers de Aru, c'est plutôt la litige était repérée par les Congolais qui fustigeaient l'occupation unilatérale d'immeubles faits par les colons aux postes douaniers de Vura. Et là, le Congo est à trait de revendiquer. Et ne comprend pas pourquoi le Ghana pouvait le quitter sur son sol. Voilà un peu la situation qui se passe sur le terrain.
Alors, vous dites que ce conflit ne doit pas exister parce que tout est clair sur le terrain, les limites naturelles sont perceptibles. Et il faut préciser que ce conflit est devenu récurrent. On se rappelle, il y a aussi José Deschartes-Minga qui nous a rappelé dans son reportage. On se rappelle qu'en juin dernier, des militaires ougandais ont fait une incursion au village d'Ovo, territoire d'Aru, où ils ont détruit une dizaine de maisons construites par les Congolais, au motif que c'est les terrains sur lesquels ces maisons étaient construites constitue la zone neutre entre l'Ouganda et la RDC, un village officiellement faisant partie du territoire d'Aru, mais qui est considéré par l'Ouganda comme zone neutre. Comment vous expliquez cela, M. Johnny Wadri?
Juste à ce point-là, la zone neutre n'existe pas. La zone neutre n'existe pas. La limite est claire à partir des routes que le colon autrace qui nous sépare nettement entre nous, le Congolais et l'Ouganda. En fait, là, les Ougandais ont profité de notre fair play que les Congolais ont manifesté depuis lors, laissant à 6 km de loin la distance. Mais c'est comme ça que lorsque la RDC, à partir de l'expertise d'experts qui devaient matérialiser les indemnités de frontières, au mois de mars, le 3 2008, que la barrière a quitté Aru, Sartre Aru, pour aller s'ériger à Vura. Et à l'arrivée, l'Ouganda a très mal ruminé parce que ce terrain qui a été dès lors abandonné servait au profiter pour le douanier ougandais qui devait percevoir des taxes même sur le sol congolais. Et maintenant, aussitôt arrivé sur les liens, ils n'ont pas bien accueilli la descente de barrières ougandaises, donc congolaises, à ce sol, à ce point, où même le pacte qui accueille, qui dit bienvenue en RDC, a été marqué.
Oui, vous dites que la zone neutre n'existe pas à cet endroit-là. Alors, comment expliquer le fait que les Ougandais, lorsqu'ils font incursion, n'est-ce pas, au village Ovo, ils disent que pour eux, c'est une zone neutre?
Et écoutez, justement, ce que nous avons dit, le fair play, donc le temps mort que l'Ougandais a vécu là-bas, l'Ougandais s'est vu comme seul à la limite depuis l'indépendance. Alors que jusqu'à 2008, imaginez un peu ce vide-là, et puis notre coin a été laissé justement à l'air, à la merci de la nature. Et c'est l'Ougandais qui contrôlait tout. Maintenant que le Congo, la RDC, à travers l'organisation des activités de jeunes, des activités génératives de recherche, pour une fille qui avait monté un restaurant juste de fortune, comme pour accueillir les visiteurs, des camions poids lourds qui venaient et qui faisaient un peu aménager un cadre, donc une activité à ce point-là. Lorsque les jeunes ont amorcé des activités là-bas, justement, les Ougandais sont venus s'embarder donc hautement armés et puis refouler cette jeunesse là-bas. Et aussi, comme pour vous rappeler, que le gouverneur de la province a initié le projet de construction de la Crépo à ce point de Voura. Et l'activité a été lancée, la fouille a été faite, mais l'Ouganda est venu penser avec armes jusqu'au jour où la fondation restait inachevée, non construite. Même le bureau de DGDA qui a été lancé est resté non construite. Et maintenant, avec l'activité de la jeunesse, dont les maisonnettes de jeunes brûlées et les gaz lacrymogènes jetés en réponse, la jeunesse s'est dit, bon, si ça n'est pas su, autant bon, n'est-ce pas récupérer des grèves ou des forces, parce que l'État semblait abandonner ce coin, l'État semble ne pas prendre le bras de corps de cette situation-là.
Et donc, vous analysez ces conflits-là par l'absence, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État dans cette partie du pays.
Affirmatif, il faut le dire, parce que depuis lors, les frères étaient nous couverts. C'est maintenant la population qui a créé de chercher à récupérer des grèves ou des forces. Obtenir de la reconnaissance depuis l'histoire que l'on connaît, depuis que ça a existé, depuis même que les Ougandais eux-mêmes ils sont conscients. Du moment où ils tiennent des résistants, ils sont même conscients qu'ils sont là sur le sol congolais. Ils ont asphalté la route depuis là où leur ville commence jusqu'à la frontière là-bas. Mais ils ont dévoré de quelques mètres. Et tout ça, le Congo était resté comme insensible à cette situation. Mais ne brandissa pas de l'accord. Imaginez pour la situation des jeunes qui ont voulu ériger. Ils ont brandi l'accord qui a défendu l'érection d'activités de construction à partir d'accords, de différents accords qui ont
été
connus jour par rapport à ce conflit.
Merci Johnny Wadri, Baudouin Amourika Barouza. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Et comment vous analysez ces conflits frontaliers entre la RDC et l'Ouganda? Nous venons de suivre Monsieur Johnny Wadri qui est de la société civile des Haru et qui analyse cela par l'absence de l'autorité de l'État dans ces coins du pays.
Merci pour la question. À mon avis, je crois qu'il faut dépassionner le débat et il faut éviter que les médias les serrent là-dessus pour justement passionner un peu trop la question, alors qu'il existe des instruments qui peuvent régler le problème, que ce soit des instruments de diplomatie entre les deux États, que ce soit des instruments au niveau de l'Union africaine. Ces instruments existent et je crois que ces instruments sont en train d'être mobilisés pour régler le problème. Des problèmes de ce genre, ça existe non seulement entre la RDC et l'Ouganda, mais il existe également d'autres types de conflits frontaliers avec d'autres pays. Comme vous le savez, nous avons 9 pays limitrophes de la RDC, et pratiquement pour chaque pays, nous avons un problème frontalier, probablement à l'exception de la Tanzanie. Mais pour la plupart, je crois, on a des litiges que nous sommes en train de régler. Donc, je pense qu'il faut dépassionner. Le ministère des Affaires étrangères est parfaitement au courant de la question. Comme on l'a dit, la commission mixte travaille sur le dossier et devrait pouvoir évoluer sur le dossier. Le professeur certainement vous le dira, mais la frontière est de notre pays a fait l'objet de plusieurs études. Comme vous le savez, l'Ouganda était une ancienne colonie britannique et nous une ancienne colonie belge. Les cartes ont été très bien tracées, particulièrement de ce côté-là. Donc les limites se trouvent sur les cartes anciennes dans l'ensemble des espaces internationaux sur les limites, notamment à Bruxelles, on peut trouver des cartes tout à fait précises. Je crois que le problème qu'il y a, c'est le problème de démarquage, de démarcation des frontières, démarcation des limites entre les États. Et c'est là, je crois, le grand problème. Nous espérons que la commission qui est mise en place va pouvoir, en utilisant la technologie moderne actuelle, le GPS, etc., va pouvoir bien démarquer les frontières.
Oui, M. Boudou Amouri Kabarouza, lorsque vous dites qu'il faut dépassionner les débats, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lorsque, dans les faits, n'est-ce pas, les populations habitant sur les territoires congolais voient les militaires ougandais qui traversent, n'est-ce pas, la frontière, qui viennent occuper des villages entiers, qui chassent même ces populations prétextant que ces villages appartiennent, en fait, constituent ce qu'on appelle la zone neutre. Et qu'est-ce faut-il faire? Ces populations doivent se taire?
Je crois que c'est là l'incident qui démontre qu'il existe un problème. Vous savez, pour régler un problème frontalier, il y a deux façons. Ou bien vous prenez les armes et vous battez, ou bien vous réglez les problèmes de manière diplomatique. Et je crois que, en ce qui nous concerne, je crois que l'option pour notre gouvernement est de régler le problème de manière diplomatique, en mobilisant tous les instruments nécessaires pour régler le problème. Donc je crois que c'est ça qui est en route à l'heure actuelle, et c'est un accord entre la RDC et l'Ouganda, avec l'accompagnement de l'Union africaine, pour pouvoir régler ce problème. Nous y allons, il faut y aller progressivement. Comme je dis, nous ne sommes pas les seuls pays au monde avec des problèmes frontaliers. Il y a des problèmes qui existent dans le monde depuis très longtemps et qui ne sont pas encore résolus. Mais heureusement, le nôtre peut être résolu assez vite. Assez vite parce qu'il s'agit simplement, je crois, d'un problème de marquage, de démarcation de la frontière.
Voilà, donc vous dites que le problème fondamental, c'est celui de démarcation des limites entre les deux pays. Et pourquoi les États ne semblent pas être disposés, n'est-ce pas, à trouver une solution à ce problème? Parce que c'est un vieux problème.
Comme on a dit, oui, nous avons traversé une période un peu difficile où nous nous sommes concentrés sur des problèmes prioritaires comme notamment désarmer les groupes armés, pacifier notre pays, stabiliser notre pays. La question des frontières, effectivement, depuis quelques années, remonte à surface. Elle fait l'objet de très grandes préoccupations et de tout un service qui a été mis en place au ministère de l'Intérieur. Je crois que ce service travaille jour et nuit sur ces questions frontières.
Alors, comment, à votre avis, expliquer le fait que c'est toujours des pays limitrophes qui agressent la RDC? On n'a jamais appris que la RDC a fait incursion à agresser ces pays. C'est toujours ces pays qui agressent la RDC. Est-ce qu'on ne donnerait pas raison à M. Johnny Wadri qui a parlé, n'est-ce pas, de l'absence de l'autorité de l'État?
Non, je ne crois pas que c'est de cette manière-là qu'il faut voir. Moi, j'étais en Ouganda au mois de juin et j'ai lu dans un journal, Daily Monitor, un article sur ce problème-là. Les Ougandais expliquent à leur opinion que ce sont les Congolais qui ont traversé la frontière et ils ont mis leurs limites plus loin. Donc, vous voyez, la crise est là. Chacun essaie de tirer la raison de son côté. C'est pour ça qu'il faut absolument un excellent travail d'une commission technique ad hoc qui puisse clarifier la situation avec les instruments scientifiques modernes. Donc je crois qu'il faut faire confiance à l'équipe qui a été mise en place et je crois qu'il faut lui donner le temps de travailler. Exactement comme nous sommes en train de clarifier la limite entre notre pays et le Rwanda, nous sommes en train de le faire et ça évolue.
Donc là vous avez donné une information, vous annoncez que les autorités ougandaises disent, n'est-ce pas, à l'opinion publique ougandaise que c'est plutôt la faute est plutôt du côté de la RDC qui est en train de violer, n'est-ce pas, les frontières. Et donc on sent qu'il y a un problème de perception, n'est-ce pas, par les deux pays, il y a un problème de perception des limites entre ces deux pays. Et il y a une commission qui a été mise en place, n'est-ce pas, pour essayer de trouver une solution à ces problèmes. C'est une commission technique mixte RDC-Ouganda. Et déjà, avec cette divergence de vue par rapport à cette limite, vous pensez que la commission pourra arriver, n'est-ce pas, à solutionner ce problème?
Cette commission est composée des experts, des gens très compétents, des scientifiques.
Qui appartiennent aux deux pays.
Des deux pays.
On n'a pas associé à cette commission des experts d'une organisation supranationale comme l'Union africaine, comme la CIEG.
L'Union africaine accompagne ce travail. Je sais qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une proposition d'accompagner, d'envoyer un expert également pour participer aux travaux. Je ne sais pas si cet expert a été effectivement envoyé, mais cela est évident. L'Union africaine suit avec attention ce travail et c'est son intérêt, parce que je crois que l'Union africaine ne veut pas que les États aient des problèmes à cause des problèmes de conflits frontaliers.
Merci, professeur Tshibang Kalala. Je rappelle que vous êtes professeur des droits internationaux à l'Université de Kinshasa et que vous préparez un ouvrage sur toutes les frontières de la RDC. Quelle analyse vous faites, n'est-ce pas, de ces conflits frontaliers entre la RDC et l'Ouganda?
Oui, merci Guy Maté pour m'avoir invité à cette émission et je salue mes amis. Je vois ici mon ami Amouli Barouza. Nous sommes des amis, on se connaît depuis des années. Et puis je salue également M. Ouadri qui participe à cette émission. Mais Guy Maté, moi je m'occupe des questions des frontières, en fait par passion. Je m'occupe des frontières de notre pays sous l'angle juridique et politique. Je ne suis pas géographe. Je ne m'occupe pas de la géographie physique ou de la géographie humaine. Et donc, je voudrais rassurer les auditeurs de Radio Capi sur cette question de frontières, notamment la frontière orientale, que c'est un vieux problème avec cette frontière-là. C'est une frontière qu'on a appelée au 19e siècle la frontière du 30e méridien. Le 30e méridien. Pour la déterminer, ça a été pratiquement des conflits au bord même de la confrontation militaire entre les troupes de l'État indépendant du Congo et les troupes britanniques qui étaient de l'autre côté de l'Ouganda. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut rappeler que le premier traité international qui a été conclu entre les Britanniques et le roi Léopold II de l'État indépendant du Congo date du 12 mai 1894. C'est ce traité-là, 9 ans après la conférence de Berlin, qu'on a essayé de dire un mot sur la frontière orientale. Mais tout ça, c'était flou parce que cette partie n'était pas explorée. En Europe, on ne connaissait rien de cette région de Lac Victoria et de Rwenzori, etc. Et c'est ainsi que c'est en 1906, au mois de mai 1906, qu'on a essayé de réviser ce traité de 1894, au mois de mai, pour régler le problème de l'enclave de Mahagi et Lado. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, etc., en 1906. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que tout le lac Albert actuel se trouvait totalement en Ouganda. Totalement en Ouganda. Et le lac Édouard actuel se trouvait totalement dans l'état indépendant du Congo. Et donc il y avait des problèmes. Il a fallu négocier. Le roi Léopold II ne voulait pas du tout céder. On a dû négocier et conclure ce qu'on appelait la frontière transactionnelle. Parce que c'est là où il y a des problèmes aujourd'hui. La frontière transactionnelle. Eh bien, les deux pays sont mis d'accord pour dire, voilà, l'État indépendant du Congo, vous allez aussi avancer jusqu'au lac Albert, et vous, l'Ouganda ou la Grande-Bretagne, vous allez avancer aussi jusqu'au lac Édouard, et donc on va se partager ces deux lacs moitié-moitié. donc frontière transactionnelle, pour conclure.
Donc il y a eu un compromis, n'est-ce pas, qui avait été trouvé?
Il y a eu un compromis parce que le lac Albert d'aujourd'hui, c'était un lac britannique, totalement en Ouganda. Sauf au nord, ce qu'on appelait l'enclave de Mahaki, il y avait un bout de territoire de 25 km, appelé l'enclave de Mahaki. Et donc, il y a eu une négociation entre les deux pays à l'époque, nous sommes en 1905-1906, pour conclure cette transaction, pour arriver à régler le problème autour des années 1910. Et c'est là où il y a des problèmes aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on a signé le dernier traité, en fait, en 1910, on a envoyé des commissions géographiques, des commissions mixtes, ça ne date pas d'aujourd'hui, sur cette partie-là, pour poser les bornes. Et donc, je voudrais dire aux Congolais qui s'inquiètent, à cette question-là, que sur le plan juridique, la frontière a été délimitée depuis le mont Savignon jusqu'au bout, là où on dépasse Aro, jusqu'au bassin, les bassins de fleuve Gongo et Nil. Donc, tout est déterminé. Le traité dit clairement par où passe la frontière. Donc, la délimitation est faite juridiquement. On ne peut pas modifier. Donc l'Ouganda ne peut pas modifier cette frontière-là aujourd'hui, seul, non. Parce que c'est déjà mis dans un traité international, qui était signé à l'époque entre les Belges, d'abord l'État indépendant du Congo, et puis la Belgique et la Grande-Bretagne. Donc c'est déterminé, c'est clair, on ne peut pas bouger. Et puis pendant cette période, entre 1910 et 1915, j'ai les documents avec moi, on a posé les bornes. Depuis le lac Édouard, en passant par la Calbert jusqu'au bout, les bornes sont posées avec leurs numéros, avec leurs emplacements. Donc si un Ougandais peut venir à minuit, croyant que bon, les Congolais sont en train de dormir, il va déplacer une borne, il perd son temps, parce qu'on va retrouver la borne. Et comme Misamou l'a dit, avec la technique moderne de géolocalisation GPS, eh bien, on peut retrouver les coordonnées géographiques, latitude, longitude, etc., et altitude, des endroits où les bornes ont été posées. Ça, on retrouve très facilement, parce que les bornes ont été posées. Tout le long de cette frontière-là, les bornes existent. Et donc, on ne peut pas craindre qu'on va nous arracher le territoire. Mais ce qu'il faut signaler aujourd'hui, c'est que ces bornes sont vieilles. Hein. 1911, 1912, 1913, etc. Et tout a été stabilisé avec le traité de Londres du 3 février 1915. Donc, il faut, s'il y a des problèmes, si par exemple certains villageois ont renversé certaines bornes, eh bien, c'est question de retrouver les coordonnées géographiques de ces bornes, de les reconstruire, comme on est en train de le faire aujourd'hui sur notre frontière terrestre avec le Rwanda. Donc la frontière du mont Ehou jusque donc ce qu'on appelle la ligne des volcans. Donc sur le plan juridique aujourd'hui, les Congolais doivent être apaisés. Personne ne peut modifier notre frontière orientale, cette frontière avec l'Ouganda qu'on appelait à l'époque la frontière du 30e méridien. C'est bien décrit, cette frontière est bien décrite dans le traité international qui existe. Les bornes ont été posées, ces bornes existent. Nous avons des difficultés, peut-être qu'on peut en parler au cours de cette émission, sur la partie où la rivière Semliki se jette dans le lac Albert, au nord, parce que ça forme un delta. Et là, il y a quelques problèmes de fixation de la frontière à cause du mouvement des eaux, etc., du phénomène d'accrétion, comme on dit en droit international. Donc, pour moi, la meilleure façon de régler le problème, c'est ce qui se fait aujourd'hui.
Merci.
C'est que les deux pays se mettent ensemble pour reconstituer les bornes, pour qu'on sache tel village se trouve en Ouganda, tel village se trouve en RDC, et éviter que parfois les villageois, qui ne connaissent pas très bien par où passent les frontières, par où se trouvent les bornes, peuvent aller habiter dans un pays étranger croyant que ce sont leur pays. Voilà, on peut faire.
Johnny Wadri, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Haro.
Alphonse Mambo Tata de Guiaro, province de Lituri. Je salue le comportement patriotique que la population d'Aru a pu manifester. Pour remédier au conflit frontalier, il serait mieux que le gouvernement congolais puisse mettre un service de sécurité pouvant contrôler régulièrement les frontières congolaises ici, de l'Ouganda, qui aménage les frontières. Et il profite petit à petit à repousser les limites.
Monsieur Johnny Wadri, c'est comme s'il vous a rejoint cet auditeur.
affirmatif, il a très bien réagi, d'autant plus que l'Ouganda, ce que l'Ouganda fait, nous l'avons dit, c'est vraiment une démonstration de force. D'autant plus qu'il s'agit là seulement de la convoitise. Et comme c'est un pays qui est apparemment bien organisé, bien équipé, et aurait déjà, n'est-ce pas, sondé, donc fait des sondages par-ci par-là, parce que c'est une bande qui est potentiellement riche. Et puis, cette bande regorge pas mal de minéraux, même de pétrole, et à commencer par la bande inter-Congo et le Soudan, à passer par là où il y a problème, jusqu'au point de Mont Bleu, et c'est une bande qui est, n'est-ce pas, convoitée par l'Ouganda. Et donc, si la RDC ne prend pas garde, la sorte que l'Ouganda est en train d'aménager, justement pour chercher à se victimiser et à chercher à conquérir, n'est-ce pas, cette zone-là, de façon à arracher, n'est-ce pas, ce patrimoine-là aux Congolais. Et à part ça, laissez-moi vous informer encore que il n'y a pas un mois, et ils sont entrés à plus de 800 mètres vers l'intérieur, jusqu'à ériger, n'est-ce pas, une borne potaine. Et puis, ça demandait ça une autre pouvoir solliciter, n'est-ce pas, l'emplacement de leur borne potaine. Ils sont venus l'ériger et puis laisser comme griffe le drapeau du pays, donc de l'Ouganda, et parce que ça faisait un projet international. Et aussi, il y avait le drapeau de Soudan. Et tout ça, ça laisse croire que s'il y a cette inattention qui dure, eh bien, nous risquerons toujours de continuer à perdre comme ça cette bande si la RDC, le Congolais, ne s'associe pas à pouvoir, n'est-ce pas, relever ou bien, n'est-ce pas, rater ou réveiller, alors qu'on le dit, l'autorité du pays, de façon, n'est-ce pas, à prendre, donc, à considérer justement cette limite-là. Donc, cette limite-là. Nous le disons parce que les instruments, c'est bien bon. Il y a pas mal de documents qui sont sortis à l'issue de ces conflits. Mais l'applicabilité maintenant de ces documents-là, depuis tout cet temps, il y a des milliers de accords qui s'opèrent ça et là. On a plus de 10 accords ou plus de 10 entretiens inter-pays qui se font autour de ça. Mais l'exécution, l'applicabilité sur terrain, quand ça n'y est pas, eh bien, le document reste.
Merci, M. Johnny.
L'Ouganda risque de l'apporter.
Qu'est-ce qu'il faut pour prévenir les conflits frontaliers entre la RDC et ses voisins? Monsieur Baudouin Amoli Kabazouza, il y a une question qui vous est adressée, elle vient aussi des Harou.
C'est David Malissi à partir d'Harou. Hier, c'était la frontière entre l'Angola. Aujourd'hui, c'est Voura. Demain, ce sera Kengez Base dans le même territoire où ça bouillonne entre le Soudan du Sud et la RDC. Il ne suffit pas de chanter la grandeur de la superficie du territoire national. Il faut protéger les limites en utilisant des moyens pratiques tels que responsabiliser l'armée à garder notre terre inviolée pour éviter des rumeurs comme Bate Kimboka et puis l'entretien régulier de la frontière.
Oui, monsieur Baudouin Amoulib Kabarouza, votre réaction?
Bon, comme je l'ai dit, nous sommes un très grand pays avec une très très longue frontière.
Avec neuf voisins.
Il ne faut pas croire que tout sera comme dans les meilleurs du monde en 48 heures. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas non plus croire que l'État n'est pas en train de travailler. L'État congolais est en train de travailler. Et nous sommes très conscients des différents problèmes que nous avons au niveau...
Johnny Wadri de Harou et qui estime que en fait qui dit que l'État a pendant longtemps abandonné des villages entiers dans cette partie du pays.
Je répète encore, nous avons connu une période extrêmement difficile où effectivement l'État était dans la tourmente et que en effet nos frontières ont été, je dirais, n'ont plus été suivis suffisamment bien sur le plan administratif à cause de, justement de ces guerres et conflits que nous avons eus. Aujourd'hui, j'ai dit, ces problèmes reviennent, mais nous sommes beaucoup plus organisés aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'il faut pour prévenir ce genre de conflits?
Bon, je crois que nous connaissons tous les problèmes frontaliers qui existent. entre nous et les pays limitrophes. Nous les connaissons très bien. Le ministère de l'Intérieur a toute une service qui s'occupe justement du règlement de ces problèmes.
Et qu'est-ce qui est fait concrètement?
Alors,
parce que nous connaissons le problème, qu'est-ce qui est fait pour apporter, n'est-ce pas, des solutions à ces problèmes?
Je vous dis très très bien que cette commission qui est le service qui est dirigé par le professeur Nguyandila est bien à pied d'œuvre. Et aujourd'hui, ce service travaille sur le problème frontalier que nous avons avec le Rwanda. Et nous espérons qu'ils vont terminer rapidement. Mais comme vous voyez, déjà, ils ont envoyé une commission, déjà là-bas, qui a déjà eu des réunions avec les Ougandais. Et donc, le processus est en route. Et nous avons l'espoir que ce sera réglé, comme le professeur vient de le dire, professeur Kala vient de le dire. Les bornes ont été très bien tracées. Et donc, il s'agit de les identifier. Et donc, on ne peut pas avoir peur de l'Ouganda pour le moment. L'Ouganda ne peut pas violer l'intégrité du territoire de la RDC. Le droit international
il est fait malheureusement.
Non, ce sont des incidents de frontières.
Merci.
Les incidents, c'est pas une violation claire avérée. Il y a des incidents. Et nous sommes en train de travailler sur tout cela.
Merci. Que faut-il pour prévenir les conflits frontaliers entre la RDC et ses voisins, professeur Tshibang Kalala? Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Goma, au Nord Kivu.
Moïssa Vainqueur, depuis Goma, province du Nord Kivu. Mon analyse porte sur deux aspects. Premièrement, les ressources congolaises qui font l'objet des convoitises des pays limitrophes jusqu'à déplacer les bornes d'une part et l'envahissement d'autre part. Deuxièmement, l'aspect de mon analyse est diplomatique et relève du sens de l'espace. Ceci dit, pour résoudre les conflits frontaliers avec tous les voisins à la fois, il s'agit d'interroger les cartes administratives de la RDC et puis son accession à la souveraineté aussi bien nationale qu'internationale. En fait, le gouvernement congolais devrait assurer l'intégrité territoriale pour décourager ceux qui ont tendance à vouloir se procurer notre terre des ancêtres.
Oui, professeur Bankolala.
Bon, je comprends bien, mais il faut, comme a dit mon ami Amouli, dépassionner le problème. Je vais vous donner deux cas avant de conclure. Je donne le cas de l'affaire de Kahemba en 2007.
Avec
l'Angola. On a dit, voilà, le gouvernement a vendu le territoire, il a fait ceci. Mais après vérification, les spécialistes, parce que nous avons une société savante dans notre pays, c'est l'Institut géographique du Congo. C'est là où nous avons les meilleurs géographes, les topographes, les triangulateurs, ils sont là-dedans, très compétents. Et je plaide pour qu'on puisse leur donner des moyens. Je reviendrai là-dessus. Ils sont allés sur le terrain. Ils ont vérifié le cinquième parallèle, parce que les bornes entre la RDC et le Canada, celui-là, sont sur le cinquième parallèle. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Que nos compatriotes avaient traversé le cinquième parallèle au sud, en fait, se trouvaient sur le territoire angolais.
Mais une telle information n'a jamais été donnée officiellement
au Congo. Bon, écoutez, je ne peux pas revenir.
C'est
vrai
que dans l'opinion publique, on pense qu'on a cédé les 11 villages
c'est du n'importe quoi.
À l'Angola.
C'est du n'importe quoi.
Parce que le gouvernement congolais n'a pas communiqué assez par rapport à cette question.
Vous savez, c'est pour cela qu'il faut dépassionner les choses. On a retrouvé les bornes. Ils sont là. La frontière avec l'Angola est bornée totalement. J'en parle dans mon livre, etc. Bon. Et c'est tout simplement, les techniciens sont allés sur place, ils ont trouvé que c'est des villageois congolais qui étaient en Angola. L'affaire était réglée par les bornes. Deuxième cas, ça nous a profité. Une société minière importante découvre un gisement important de cuivre dans le Katanga. Bon. Dès que la Zambie apprend, se dit non, mais ce gisement-là se trouve ici chez moi en Zambie, c'est mon gisement à moi. Comment régler le problème? On est allé sur le terrain, on a retrouvé les bornes posées à l'époque, et puis la Zambie s'est tue. Donc, comment régler le problème? Maintenant, c'est la question. On va régler le problème par ceci. La délimitation des frontières est faite. Les traités existent. Les bornes sont posées depuis le XXe siècle ou le XIXe siècle. Mais on ne respecte pas l'aspect administratif parce que ces bornes doivent être inspectées. Souvent, dans les traités, on dit tous les 10 ans, on doit faire des inspections conjointes des deux pays pour voir si ces bornes sont en bon état, les reconstruire, etc. Donc, ça, c'est ce qui manque. Il y a le problème avec le Soudan du Sud, parce qu'on l'a dit. Là, on n'a jamais même démarqué cette frontière, depuis l'époque qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Le traité existe, mais on n'a pas posé les bornes sur la frontière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça coûte de l'argent. ça coûte de l'argent. Moi, je demande au gouvernement, parce que nous avons les compétences, de débloquer des crédits, de l'argent, mettre à la disposition de l'Institut géographique du Congo. Nous avons des experts compétents. Prendre contact avec les pays voisins, parce que ça doit se faire de manière bilatérale. Un pays ne peut pas faire ça seul, de manière à ce qu'on puisse revoir les bornes. C'est un problème des bornes. Ce n'est pas un problème de frontières, de contestation, de ceci, cela. Il faut retrouver les bornes existées et l'affaire sera réglée. Ça demande de l'argent. Je plaide qu'on puisse financer l'Institut géographique du Congo, qui a des experts, la Commission nationale des frontières, que notre diplomatie se mette debout. Se mettre debout, que le gouvernement se mette debout pour contacter les pays voisins, pour de régler ce problème par la voie des négociations.
Vous avez évoqué le cas de Kayemba, vous avez évoqué le cas, n'est-ce pas, de la Zambie. Malheureusement, toutes ces informations ne sont pas mises à la disposition de l'opinion. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème de déficit de communication quand il s'agit de la question liée aux frontières? Il y a même le député Henri Thomas Lokondo qui s'est plaint récemment en disant que, comment expliquer le fait que au Rwanda, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais informe ses députés par rapport à ces conflits, mais au Congo, on ne dit rien, il y a une certaine opacité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit aussi régler ces problèmes de communication par rapport à cette question?
Monsieur Guimaté, vous m'avez invité ce soir pour parler science, technique, droit. Je ne veux pas faire la politique ce soir.
Monsieur Amour Kawaza, un problème de communication?
Je crois que si vous suivez très bien les débats au Parlement, il y a déjà eu des débats sur la sécurité aux frontières. Et des parlementaires ont soulevé à cette occasion-là la problématique justement de la délimitation de nos frontières et de la sécurité de notre territoire national. Ce débat a bel et bien déjà eu lieu, je crois que c'était en 2014, au Parlement. Donc, il faut bien suivre. C'est un débat important dans l'opinion politique nationale.
Mais depuis que la commission mixte RDC-Rwanda est en train de travailler, on ne dit rien au sujet des conclusions, n'est-ce pas, de ces travaux. Hein. Rien n'a été dit jusque-là. Alors, il y a un flou entretenu.
Non, ce n'est absolument pas un flou entretenu. Le professeur Nguyandi là s'exprime chaque fois que les journalistes lui posent des questions. Ils sont encore en train de travailler. Et au moment du règlement total de ce problème, grâce aux travaux qu'ils sont en train de mener, l'information sera justement mise au public. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire trop de soucis.
Nous sommes à la fin de l'émission, votre conclusion?
Bien, moi je pense que les frontières de la RDC, comme le professeur Kalala vient de le dire, les frontières de la RDC sont très très bien délimitées. Les frontières sont très bien connues. Les incidents qui se posent aux frontières, nous les aurons toujours. Mais le pays est équipé pour pouvoir intervenir. Ce qu'il faut, c'est effectivement que les moyens et les instruments nécessaires soient mis à la disposition des experts nationaux et que ces experts puissent pouvoir se déployer chaque fois qu'il y a des incidents qui se passent. Voilà.
Monsieur Johnny Ouadri, votre conclusion?
Notre mot de la fin, c'est qu'il faut que l'instrument qui a été, n'est-ce pas, traité, travaillé par les publics soit concrétisé cette fois dans les délais répartis. Sinon, nous craignons que, n'est-ce pas, cette situation puisse se perpétrer et que, finalement, notre territoire soit poreux. Et voilà un peu notre crainte.
Professeur Bankolala, votre conclusion?
La conclusion, c'est de rassurer le peuple congolais et en particulier les populations de l'Ituri. Les frontières de la RDC sont intangibles, personne ne peut les modifier. Les bornes existent. Si elles ont été détruites, il faut que le gouvernement se mette debout, mette en mouvement la diplomatie pour entrer en contact avec les autres pays pour qu'on puisse faire ce travail de bornage, de reconstruction de frontières, et de bornes, et qu'on puisse mettre en place le système d'inspection régulière tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour voir si les bornes sont toujours en état.
Mais aussi accélérer les processus de restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République d'un côté du Congo.
Ça c'est politique, mais je reste sur le plan technique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, à Alain Irung, Kelly Nkoute, Berry Franklin Luchaka, pour la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes plutôt sur la radio de la pied.